UK. Lookalikes are never the same. The firstborn's to blame, and I connect. I expect recovery from what I detect.
En temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Andréane et bonjour à tous.
Dans ce journal Jeanne, la guerre au Moyen-Orient, Américains et Israéliens sont-ils en train de prendre des chemins différents?
Alors que Donald Trump a annoncé des négociations avec l'Iran et reporté de 5 jours son ultimatum de frappe sur les infrastructures énergétiques de l'Iran, Benjamin Netanyahou, lui, se dit déterminé à poursuivre ses frappes en Iran mais aussi au Liban. De son côté, l'Iran confirme des contacts mais dément toute négociation. On fait le point dans ce journal. On parlera aussi des Iraniens qui vivent toujours sous une censure féroce du régime. Passer des appels téléphoniques vers l'Iran depuis l'étranger est ainsi devenu quasi impossible, vous l'entendrez. Dans cette édition aussi, c'est probablement le plus gros revers infligé à Giorgia Meloni. Les Italiens ont voté contre sa réforme du système judiciaire. Nous serons à Rome. De l'aide au développement contre des ressources minières, la stratégie décomplexée de la Maison-Blanche dans plusieurs pays africains et notamment en Zambie. Et puis de la musique pour terminer ce journal. On écoutera la rappeuse belge d'origine portugaise, Blue Samu, qui sort son premier album.
L'Iran dément toute négociation avec les États-Unis.
Les déclarations après le revirement de Donald Trump hier, le président américain a évoqué des négociations avec un responsable iranien non identifié et il a reporté de 5 jours son ultimatum de frappe sur les infrastructures énergétiques iraniennes. Téhéran dément de son côté toute négociation, même si le ministère des Affaires étrangères confirme avoir reçu des messages de pays amis pour des discussions avec les États-Unis. Le média américain Axios affirme que le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Khalibaf, se serait entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Le média Axios qui évoque une possible rencontre entre délégations iraniennes et américaines dès cette semaine. Une séquence qui prouve en tout cas que les Américains cherchent bien une issue à cette guerre et que le régime iranien est affaibli, mais toujours en place. Écoutez à ce sujet Hasni Abidi, politologue et directeur du Centre d'études sur le monde arabe à Genève.
Il faut savoir que s'il y a un cessez-le-feu, que cette décision très importante, elle ne peut pas se faire sans les composantes du système politique iranien, et je dirais même sans aussi l'aval de nouveaux guides suprêmes iraniens, M. Mojtabe. Donc ça veut dire qu'on sait que ce régime fonctionne toujours, certes affaibli, mais il est toujours là. Mais on sait aussi, ce qui est très très important à travers l'annonce de Donald Trump, que les Américains n'ont jamais fermé la porte à la négociation, même si évidemment les Iraniens n'ont pas la même définition de négociation, mais à un contact, établir un contact permanent avec les Iraniens, même en temps de crise, même en temps de guerre, c'est un élément qui est indispensable pour au moins éviter à ce que la guerre échappe à tout contrôle.
Hassni Abidi, interrogé par Alice Froussard. Ces possibles contacts américano-iraniens qui n'ont pas empêché Téhéran de tirer une nouvelle vague de missiles vers le territoire israélien cette nuit. Hier, Benjamin Netanyahou a lui révélé s'être entretenu avec Donald Trump. Il s'est dit déterminé à poursuivre ses frappes en Iran et au Liban, ajoutant « Nous protégerons nos intérêts vitaux en toutes circonstances ». On va y revenir en direct de Jérusalem. Ce sera dans le journal de 7h.
La population iranienne, Jeanne, elle vit toujours au rythme des bombardements et des coupures d'Internet, ainsi que de la répression du régime.
Mais le groupe de défense des droits humains, NGAO, basé en Norvège, insiste sur le fait que les autorités iraniennes peuvent arrêter des personnes qui envoient des informations vers l'étranger. Passer des appels téléphoniques vers l'Iran depuis l'étranger est devenu quasi impossible. Nina Richard a rencontré Weiss. C'est un jeune réfugié politique iranien arrivé en France il y a quelques années.
Son frère de 14 ans et ses cousins vivent toujours à Téhéran, la capitale iranienne régulièrement plongée dans le noir à cause du régime et des bombardements.
C'est très compliqué comme à cause de des problèmes, mais en fait le régime il coupe l'internet. Des fois ça m'arrive pendant un mois, j'ai aucune nouvelle de ma famille, de mes proches, de mes amis surtout. Voilà, c'est très compliqué.
Et lorsque la connexion internet fonctionne, Weiss dit devoir rester très prudent pour chaque message envoyé, chaque appel passé.
Très surveillé quand t'es, surtout quand tu reçois un appel de France. Et le régime, il surveille, il écoute.
Le jeune homme de 26 ans ne veut pas les mettre encore plus en danger, alors que leur sol tremble déjà sous les bombardements.
On est pris comme un otage dans le sous-pays, en fait. Une partie de moi, c'est toujours là-bas, et puis je pense à eux. Je peux rien faire, mais je pense à eux fortement.
Ce sont eux, les vrais combattants, répète Weiss, qui chaque jour vérifient ses notifications à deux fois depuis le début de la guerre.
Parce que nous, on veut la liberté entre les femmes et les hommes, et aussi la liberté de ce régime.
Une liberté du régime pour sa sœur, pour sa mère, pour toutes les Iraniennes, résume finalement le réfugié politique.
Un récit de Nina Richard, enfin à noter concernant les innombrables conséquences de cette guerre, que le Japon va de nouveau puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole à partir de jeudi à Tokyo, qui tente d'amortir la flambée des prix sur les marchés asiatiques. Ce matin, le prix du Brent est repassé au-dessus des 100 dollars le baril au lendemain d'une chute de plus de 10% provoquée par les affirmations de Donald Trump sur le report de nouvelles frappes contre l'Iran.
Des alertes aériennes lancées ce matin sur tout le territoire ukrainien.
À l'exception de la région d'Odessa, en raison d'une vague d'attaques russes, selon les différentes autorités régionales. Dans son adresse télévisée quotidienne hier soir, le président Volodymyr Zelensky avait déjà averti de la possibilité d'une frappe massive dans la nuit des raids russes, qui ont déjà fait 3 morts à Poltava et Zaporizhzhia dans le centre et dans le sud de l'Ukraine.
En Italie, c'est un échec politique de taille pour Giorgia Meloni.
Et un revers majeur. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement en 2022, la victoire du non au référendum sur la réforme constitutionnelle de la justice qu'elle avait pourtant portée. La défaite est nette. 54% des électeurs se sont prononcés contre son texte à un peu plus d'un an des prochaines élections générales. À Rome, Anne Lenir.
Giorgia Meloni, qui s'est impliquée en première ligne pour le oui à la réforme de la justice, avait assuré qu'en cas d'échec, son gouvernement resterait en place. Et elle l'a réitéré via un message vidéo après les résultats du scrutin.
Bien évidemment, nous regrettons une occasion perdue pour moderniser l'Italie, mais cela ne change pas notre engagement à honorer le mandat qui nous a été confié.
Pour la première ministre, qui n'a cessé de vanter la stabilité et la force de son gouvernement, la mise au rebut de la réforme de la magistrature est cependant son premier grand revers politique et risque de freiner d'autres réformes constitutionnelles qu'elle a à cœur. Par exemple, celle de la loi électorale. De fait, l'ample participation des électeurs démontre que les Italiens tiennent à leur constitution entrée en vigueur en 1948. Pour l'opposition, la victoire du non marque la volonté de préserver l'autonomie de la justice et représente un signal important pour l'avenir, souligne Elie Schlein, leader du Parti démocrate.
Le pays demande une alternative à ce gouvernement et nous avons la responsabilité de concrétiser ce désir.
Ce qui signifie unir sur un même programme tous les partis de centre-gauche en vue des législatives de 2027. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et toujours au chapitre électoral, les Danois votent aujourd'hui élection législative à suspense, à l'issue desquelles la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen pourrait décrocher un troisième mandat consécutif grâce notamment à son opposition à Donald Trump et à ses menaces d'annexion du Groenland. Les bureaux de vote ouvrent dans 2 heures maintenant au Danemark continental.
De l'aide au développement contre des ressources minières.
Et la Maison-Blanche promet d'investir 320 millions de dollars dans le système de santé zambien cette année, et ce si le pays d'Afrique australe signe en parallèle un accord bilatéral qui concerne entre autres les ressources du sous-sol du pays. Une stratégie agressive, assumée de la Maison-Blanche pour mettre la main sur le cuivre ou le cobalt, qualifié de chantage par de nombreux activistes du secteur de la santé. Correspondance régionale, Valentin Hugues.
Sur le terrain, les acteurs de santé sont sous le choc et dénoncent un chantage au financement inacceptable. Asia Russell dirige l'ONG Health Gap, qui a rendu public le mémorandum d'accord entre les États-Unis et la Zambie.
Si vous consultez le protocole d'accord que nous avons publié la semaine dernière sur notre site internet, vous constaterez clairement que, sauf si le pays s'engage à conditionner son aide à l'accès des États-Unis à leurs ressources minières, l'accord relatif au financement de la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et les problèmes de santé publique est caduque.
Parallèle, la Maison-Blanche tente de signer un accord bilatéral sur les ressources minières zambiennes, alors que le pays est riche en cuivre et en cobalt.
Nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'il existe souvent des négociations truquées ou biaisées. Mais en matière de santé, les maladies ne connaissent pas de frontières. Les manipulations dans ce domaine sont tout simplement scandaleuses parce que quand on triche dans le domaine de la santé, on fait souffrir tout le monde.
Le Zimbabwe, pays voisin, a récemment refusé un accord similaire avec Washington, au motif que l'aide au développement ne peut pas être utilisée comme un moyen d'extraction stratégique. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Les États-Unis toujours, qui ont en quelque sorte la main mise sur les nouvelles autorités du Venezuela depuis l'enlèvement de Nicolas Maduro lors d'une opération de l'armée américaine. Depuis Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, multiplie les gestes vis-à-vis de Washington. Et en échange, les autorités souhaitent l'abandon des sanctions qui pèsent toujours sur le pays. Les partisans du gouvernement manifestaient dans ce sens hier à Caracas. Reportage Alice Campagnol.
Le mot d'ordre hier lors de la manifestation convoquée par le gouvernement, la fin des sanctions de Washington contre le Venezuela. Des sanctions qui durent depuis 2019 et empêchent le pays de faire du commerce sur les marchés internationaux. Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur, s'adressait hier aux manifestants.
Une fois que les sanctions seront levées, notre pays retrouvera les conditions du temps du commandant Hugo Chavez. Nous reprendrons la construction de logements, nous retrouverons un bon système de santé et les salaires les plus hauts d'Amérique.
Pour le moment, l'administration américaine n'a pas levé toutes les sanctions qui pèsent sur le Venezuela. Mais depuis la guerre en Iran et l'augmentation du prix du baril, le Trésor américain s'est montré plus flexible et permet désormais aux compagnies états-uniennes de faire affaire avec PDVSA, l'entreprise pétrolière publique. De nouvelles licences ont également été accordées par Washington, autorisations qui permettent à quelques multinationales de travailler dans le pays caribéen. Mais à Caracas, on exige enfin la levée de toutes les limites imposées à l'économie vénézuélienne. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Allez, enfin de la musique avec l'une des voix les plus singulières de la scène belge, la rappeuse Blue Samu vient de sortir son premier album, José Marinho.
Samu, de son vrai nom Salomé dos Santos Ataíde Magalhães, est une rappeuse et autrice belge d'origine portugaise d'à peine 30 ans. Depuis 2016, elle construit un univers traversé par un parfum de saudade en remontant le fil de son histoire, comme ici sur ce rap en portugais.
Sou da rua do bairro das Peras em Santa Maria de Lamas de Santa Maria da Feira. Sou do norte e digo asneira, mas está tudo bem, digo na brincadeira. Gaja de Lisboa caiu da cadeira. Ai, oh meu Deus!
Sur son premier album, les chansons en portugais et en anglais sont comme des confessions sans filtre entre doutes, hésitations et tensions liées à sa double culture. rap, électro, soul, post-punk et accent de fado, Blues Amou mélange tout et surtout, elle le fait bien. Un premier projet introspectif qui serre le cœur sans jamais brider la créativité.
Et c'était José Marigno.
Merci à vous, Jeanne Bartoli. Il est 6h13 à Paris et c'est le début de notre tour du monde de l'actualité. On vous parle aujourd'hui bien sûr de la situation au Moyen-Orient, la guerre et ses possibles discussions en cours entre les États-Unis et l'Iran. En tout cas, si l'on en croit Donald Trump, on en parle ce matin et on appellera notamment Frédéric Misselin à Jérusalem. L'État hébreu qui semble déterminé à aller jusqu'au bout. Alors que le baril de Brent remonte à nouveau ce matin, on se penche encore sur ce détroit d'Hormuz au cœur de cette guerre dont la paralysie a de nombreuses conséquences sur l'économie mondiale, des passages cruciaux comme Hormuz, mais fragile, nous dira tout à l'heure Sami Boukhalifa dans la Fabrique du Monde. Rendez-vous dans une demi-heure. Ce matin, on revient aussi longuement sur la toute première visite d'État du président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye est en Espagne. C'est notre dossier du 8h. Notre grand invité Afrique ce matin, la militante sénégalaise pour les droits des femmes, récompensée aujourd'hui pour son action. Awa Fall Diop répond à Charlotte Hydrak. Et puis, à 7h20, notre grand invité international, Arnaud Pontus, le président de la Commission de Défense Nationale du Parlement d'Estonie.
Oui, Kalev Stoïchescu participe à Paris au Forum pour la Défense et la Stratégie à l'heure des guerres au Moyen-Orient et en Ukraine. Les experts et les acteurs civils et militaires évoquent les bouleversements géopolitiques. Kalev Stoïchescu va nous livrer son regard d'Européen, d'Estonien, sur les conflits en cours. L'Estonie, on le sait, c'est l'un des trois pays baltes frontaliers de la Russie, un petit pays d'1 400 000 habitants qui vit sous la menace permanente d'une intervention militaire de son voisin. Après 4 années de guerre en Ukraine, comment envisage-t-il la suite de la confrontation? Ce qui se passe depuis 25 jours au Moyen-Orient, les frappes contre l'Iran, change-t-elle la donne? Quelle relation entre l'Europe et les États-Unis? On parle de tout ça avec le président de la Commission de la Défense nationale.
Mais en fait, refuge. N'attends pas d'excuses, c'est mort. Le rap baissé à ta taille pour du pif, je m'y refuse. Pas là pour les paillettes, mais pour laisser parler ma plume. Car j'ai plus le temps d'attendre ni de pailler. On a voulu varier les thèmes, et si t'aimes pas, peut-être qu'on t'a contrarié. Me compare à Nicki Minaj, mais je fais du besta. Malgré une vie besta, y'en a dans les ménages. Je les ai tous méminables, ces hommes qui pensaient qu'on était bonnes qu'à nettoyer. Voilà, j'ai fait le ménage à ma façon. J'ai passé largement le temps des garçons. Préfère parler son que des puces de lâche. L'impression que les filles se lâchent un peu trop dans l'émission. Que les petits regardent. Qui sont les fils de lâche, qui sont les bons, lesquels résisteront en tentation. Même au fil de l'âge, religion qu'on s'allie avant de propager. Forcément présager un dommage colossal. Ma région s'est pâlie, version très âge. J'ai fait le trajet à Paris pour qu'ils consomment que local. Vida de loca. J'attends la sortie dans les starting. Y'aura pas de faux pas, la paresse trop tard. J'suis pas dupe, la plupart des cocards te butent par une caresse. J'suis un peu dupe, face au bar. C'est quoi l'atterrissage qui compte ou la chute? En stud, on valide que le one shot. Tu veux tester la plume? Bonne chance. Y'a ceux qui appellent ça de l'ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip. Rap conscient. J'ai entendu parler de guerre. Ouais. Qu'on s'étonne pas que je sois des terres. Ouais. J'ai entendu parler de guerre. Inégale de massacre et d'invasion de terre. Qui s'étale, il paraît que ça craint. Et qui font des tonnes à détaler. Qu'on s'étonne pas que je sois des terres. Pas de pitié pour le peuple qu'on l'endort. Mal odeur délétère. Pas de respect pour les traîtres. Que les fantômes qui me hantent deviennent ceux qui m'accompagnent. Y'a trop de profiteurs. Moins je comprends l'homme, plus je fais le tri dans mes contacts. Mon pote, faut qu'on le fasse. Le vote était plus efficace. Donc le choc fut frontal. Faut qu'on fasse. La vie fait des contrastes. Qui les font taire comme la mer en bas d'une montagne. On continue le combat pour que la MIF ne connaisse de Kerry James. Pas que le constat. La paresse trop tard. J'suis pas dupe. La plupart des cocards te butent par une caresse. J'suis un peu dupe. Face au bobard. C'est quoi l'atterrissage qui compte ou la chute? En stud, on valide que le one shot. Tu veux tester la plume? Bonne chance. Y'a ceux qui appellent ça de l'ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip. Moi je préfère parler de rap conscient. Ego trip. Rap conscient. Imprévisible comme un focal. J'veux sortir la tête du bocal. Imprévisible comme un faux calme. Tourne en rond, y'a que dans ma bulle que j'arrive à sortir la tête du bocal. Le malaise est total, comment rester au calme face au rodka de la presse à ses quotas. La paresse, trop tard. C'est l'heure de remplacer vos cocards par mes caresses. My soul, the ground.
à Verneuil-d'Avray-Diton sur le DAB+.
Sur le DAB+.